Bonjour à tous, un grand merci à toute l'équipe Louange qui nous a conduits dans cette première partie. Merci pour ce service. Moi, je me suis senti aimé. Alors, il n'y a que moi, apparemment. Non, tu t'es aussi senti aimé, Xavier, par cette première partie. Oui, service et amour sont liés. Et c'est justement ce que nous allons voir ce matin. Alors, je n'ai pas dit ça juste pour introduire mon message. Je me suis vraiment senti aimé dans cette première partie, mais je voulais aussi faire un petit clin d'œil à ce qu'on va voir dans quelques instants. Nous concluons ce matin notre série sur la vision de notre Église. Vous vous rappelez ? Foi affermie, foi rayonnante, foi enthousiaste, et depuis ce mois de janvier, foi bienveillante. Et c'est le dernier pan de la foi bienveillante que nous voulons voir ce matin. La semaine dernière, vous vous rappelez peut-être, nous avions médité sur la bienveillance relationnelle. Et cette première partie de ce que nous avons écrit dans cette vision d'Église, nous croyons que Dieu nous a aimés le premier, qu'il nous appelle en retour à prendre soin les uns des autres avec amour et bienveillance. Nous voulons être une Église au sein de laquelle l'amour fraternel se vit entre tous, quel que soit l'âge, l'origine culturelle et sociale, notamment par nos temps conviviaux et l'entraide. Cela passe aussi par de petits groupes d'échanges, d'encouragement et de prières. Et si vous voulez retrouver, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ce message, sachez qu'il est sur le site, comme on est dans une période où avec les microbes, on n'arrive peut-être pas à être aussi constant qu'à l'habitude. En tout cas, sachez qu'on met en ligne les messages du dimanche. Et ce matin, nous voulons nous intéresser à la deuxième partie, celle qui relie justement le service et l'amour. Quelle que soit son avancée dans la foi, chacun doit pouvoir trouver sa place pour grandir et s'épanouir spirituellement. Nous voulons encourager chaque membre à se mettre au service de l'Église et de son prochain en développant les aptitudes que Dieu lui a données. Une foi bienveillante dans et par le service. Une foi bienveillante dans et par le service. Il faut peut-être que je précise ce que j'entends par service. Il ne s'agit pas uniquement de peut-être un ministère bien identifié dans l'Église, la louange, tout ce qui touche à la jeunesse ou l'enfance. Voilà, on a son nom dans l'organigramme. Non, il s'agit d'une vision beaucoup plus large de tout ce qui consiste à prendre soin de son prochain par des petites attentions, peut-être tout simplement par l'écoute, l'aide, l'encouragement, tout ce qui nous amène à servir notre prochain. Et la proposition de ce matin, c'est que, en fait, nous sommes face aux deux faces d'une même pièce. Il est impossible de servir son prochain sans amour. Ça, c'est la première face. Et la deuxième phase, c'est « Il est impossible de grandir dans l'amour sans servir. » Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin, et nous allons le faire à partir d'un texte bien connu, que je trouve extraordinaire pour conclure toute cette série sur notre vision d'Église. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles en 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je vais encore prier. Seigneur, notre Dieu, quel passage extraordinaire ce matin. Quelle description de cet amour. Et Seigneur, nous nous sentons petits, nous nous sentons pas dignes de vraiment méditer sur ce texte ou de pouvoir nous approprier ce que tu dis à travers ce passage. Mais Seigneur, je te prie de nous donner un cœur bien disposé, que ta gloire resplendisse et que nous entendions ta voix. En ton nom, Seigneur. Amen. Impossible de servir réellement sans aimer. C'est mon premier point. 1 Corinthiens 13. Quel passage. On a plutôt l'habitude d'entendre un tel passage un jour de mariage. Les mariés se promettent de s'aimer toute la vie et en toile de fond, on entend la belle musique d'1 Corinthiens 13 sur l'amour. Ah, c'est beau. Pourtant, vous le savez sans doute, ce n'est pas vraiment le contexte de ce passage. L'enjeu pour Paul ici, ça n'est pas d'encourager les couples à filer le parfait amour une fois la nuit de noces passée. L'enjeu ici est d'encourager une église à grandir dans la bienveillance, à grandir en amour en revoyant notamment sa manière d'envisager le service. C'est quoi le problème des Corinthiens ? Oh, y en a beaucoup. Mais en un mot, si on devait le résumer, c'est l'orgueil. Cet orgueil, on le voit tout au long de l'épître, se manifeste dans différents domaines. Tout d'abord, dans le rapport au leadership. Je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de Céphas, c'est qui le meilleur ? C'est les miens. Dans le rapport à la liberté. Ah ça, les Corinthiens, ils étaient libres à l'égard de tout. Mais dans le style nos limites. Tout est possible, tout est permis. La connaissance aussi était sujet d'orgueil à Corinthe. Les chrétiens de Corinthe avaient bien compris l'enseignement des apôtres, en tout cas intellectuellement. Mais au lieu de s'édifier les uns les autres, ils se jugeaient les uns les autres. En fait, il semble que les Corinthiens se trompaient sur la vraie spiritualité, sur le vrai service. Pour eux, être un chrétien abouti, c'était pouvoir le manifester extérieurement par des choses spectaculaires, que ce soit par la sagesse, par l'éloquence, par la connaissance, par la liberté. Les Corinthiens cherchaient à valoriser leur spiritualité, à apparaître comme des chrétiens A++. Et en conséquence, ils avaient la fâcheuse tendance à chercher leur satisfaction dans l'exercice de leurs dons, à chercher leur satisfaction dans leur service. Vous savez, des petites phrases comme « Ah, j'aimerais bien m'épanouir dans mon service. Ça, c'est mon don. Je me sens à ma place. Moi, je. » Ces considérations ne sont pas à balayer d'un revers de la main, mais elles ne doivent pas être la plaque tournante de la réflexion, du service. Et c'est notamment pour corriger ces dérives que Paul écrit les chapitres 12 à 14 de l'Épître aux Corinthiens. Dans le chapitre 12, Paul rappelle le sens et la place des dons dans l'Église. Oui, il y a bien l'idée que nous jouons tous un rôle différent, la main, le pied, l'œil, mais pas pour jouer notre propre partition. Le critère d'appréciation, c'est le bien commun, pas la satisfaction personnelle. Et puis au chapitre 14, Paul encourage justement les Corinthiens à rechercher les dons qui édifient plutôt que ceux qui impressionnent. Et donc au milieu de cela, 1 Corinthiens 13 et son hymne à l'amour. En fait, si nous on s'extasie généralement devant ce passage, je ne pense pas que ce soit comme ça que les Corinthiens l'ont entendu quand ça leur a été lu dans l'Église. Si je parlais la langue des anges, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même toute la plénitude de la foi. Et là, les Corinthiens, c'est « moi, je veux ça, je veux ça ». C'est ce qu'ils désiraient par-dessus tout, ce que Paul est en train de dire. Et les paroles suivantes de Paul font l'effet d'une douche froide. Le violon de la belle mélodie se tait. Si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien, dit Paul. Ça va même plus loin. C'est pas uniquement ça ne sert à rien, c'est vous ne servez à rien. Ou plutôt, je ne sers à rien, comme le dit Paul. Parce que vous avez remarqué, Paul n'est pas en train de distribuer les bons points. Il est en train de s'approprier lui-même la réflexion qu'il donne aux Corinthiens. Je suis comme une cymbale qui résonne, un airain qui retentit. Il sous-entend par là que ça pourrait nous arriver à tous, que ça nous arrive à tous, même à lui. Notre service peut rater son but. Il nous faut veiller sur ce que vise notre service. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que toutes les fois où j'évalue mon service sur autre chose que l'amour qu'il suscite en moi, l'amour pour les autres, eh bien ce que je fais ne sert à rien. C'est quoi évaluer son service sur autre chose que l'amour ? Mes compétences, ah ça c'est un domaine où j'envoie du lourd. J'ai l'impression que je fais mon petit effet. Les gens sont impressionnés. Le sacrifice, vous avez entendu, hein, Paul dit même que si je sacrifiais mon corps jusqu'à le livrer au feu, si je ne le fais pas pour des bonnes raisons, ça ne sert à rien. Waouh, c'est raide ça. Alors en Occident, généralement, notre sacrifice n'est pas aussi radical. Il se compte plutôt dans nos sous-sous ou dans le temps qu'on va donner. Toutes les heures que j'ai pris pour cet enseignement, j'y ai mis mon cœur. Ou alors, pour m'occuper des choses matérielles de l'Église, et c'est nécessaire. Ou pour faire du bien à quelqu'un. Oh, j'ai passé des heures à l'aider. Là, c'est même plus les autres qu'on impressionne, hein, c'est nous-mêmes. On mériterait bien une médaille, n'est-ce pas ? On ne peut servir l'autre pour d'autres motivations que l'amour, nous dit Paul. La reconnaissance, l'approbation, l'ambition, tout cela nous éloigne du service. Selon 1 Corinthiens 13. Le constat de Paul est sans appel. Si l'amour n'est pas dans mon service, je ne suis qu'un cuivre qui retentit. Sans amour dans le service, je n'ai pas servi. Deuxième point, deuxième remarque de ce message, impossible d'aimer sans servir. Il ne faudrait pas tirer de tout ce qu'on vient de dire que bon, du coup, il vaudrait mieux ne pas servir, hein, parce que si je sers sans amour, ça ne sert à rien. Impossible d'aimer sans servir. C'est mon deuxième point. En fait, il faut plutôt voir notre service comme un révélateur de notre manque d'amour. Moi, je trouve tout à fait extraordinaire que le passage le plus éloquent sur l'amour dans la Bible ne concerne pas l'amour conjugal, l'amour romantique, mais l'amour dans l'Église, et ça pour trois raisons. La première raison, ça veut dire que du coup, ça s'applique aussi au couple. Ben oui, si l'amour dans l'Église doit ressembler à ça, à combien plus forte raison dans ma famille, auprès de mon plus proche prochain, vais-je devoir mettre cela en pratique ? L'inverse n'aurait pas été vrai. Si on avait lu ça dans le cadre du couple, on se serait dit « oui, ben ça c'est parce que c'est mon amoureuse, mon amoureux ». Avec les autres, peut-être je peux voir les choses différemment. Mais dans ce sens-là, ça ne marche pas. Deuxième raison, ça veut dire que la plus haute qualité de l'amour s'applique à tous, Vous avez remarqué comment on a tendance à idéaliser l'amour conjugal, l'amour romantique? Eh bien, d'après Paul, le couple n'est pas le cadre par excellence de l'amour. Chaque homme et chaque femme, qu'ils soient en couple ou non, qu'ils soient parents ou pas, sont appelés à aimer avec la qualité d'un Corinthiens 13. En fait, ce n'est pas en comptant fleurette à ma dulcinée que je vais découvrir la profondeur d'un tel amour, mais c'est en vivant une vie de service auprès de mes frères et sœurs, d'après 1 Corinthiens 13. Et c'est seulement en découvrant que la vie de couple est aussi une vie de service que je vais pouvoir le vivre réellement dans mon couple. Troisième raison, nous avons besoin d'être confrontés à des personnes difficiles à aimer pour réellement grandir dans l'amour. En fait, la parole de Dieu n'abaisse pas la qualité de l'amour en fonction des personnes. Ça, c'est ce que nous, on fait. Oui, ok, être patient, ça marche avec les personnes que j'aime bien, mais celui-là, vraiment, tu veux que je sois patient avec lui, Seigneur? Et puis, franchement, ne pas soupçonner le mal chez un tel. La Bible ne fait pas cela. Pour elle, le problème, ça n'est pas l'affinité, c'est notre manque d'amour. Voilà pourquoi le service est si essentiel pour grandir dans l'amour selon Dieu. Parce que c'est uniquement par le service que je vais être confronté aux personnes avec lesquelles je n'ai pas forcément d'affinité et avec lesquelles je vais faire grandir cet amour tel qu'il nous est décrit. Mais de quel amour parle Paul, au fond? C'est quoi cet amour selon 1 Corinthiens 13? Ça vaut le coup d'approfondir parce que ce qu'il dit là prend un peu le contre-pied de ce qu'on aurait tendance à dire, moi le premier. On sait que réduire l'amour biblique à un sentiment, ça colle pas. Je t'aime tant que je le ressens, ça marche pas très bien avec ce que Jésus nous dit. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Ok. Mais est-ce que pour autant on peut définir l'amour comme uniquement la résolution inébranlable de chercher le bien d'autrui? En somme, est-ce que aimer, ça équivaut à chercher le bien de l'autre? Deux mots synonymes. C'est ce qu'on pourrait penser. Sauf que Paul dit explicitement au verset 3, « Si je distribuais tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Paul fait une différence ici entre vouloir faire le bien de l'autre, distribuer tous ses biens, et aimer. En fait, selon 1 Corinthiens 13, l'amour, ce n'est pas seulement l'altruisme, l'abnégation. D'ailleurs, en entendant Paul, on a le droit de s'interroger. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'il idéalise pas ce que l'on peut vivre dans nos relations humaines? Paul, vraiment, toi, tu pardonnes tout? Tu crois tout? Tu espères tout? Tu supportes tout? Est-ce qu'on peut ainsi définir ce qu'il faut faire en toute situation à partir de ce passage? On aurait là le mode d'emploi. Est-ce qu'il ne faudrait pas apporter un peu de modération à ce que dit Paul là? C'est ce qu'on aurait tendance à faire, n'est-ce pas? Alors le but d'1 Corinthiens 13, ça n'est pas d'entrer dans le « comment faire » dans le détail. Il y a bien d'autres passages du Nouveau Testament qui nous le montrent, et notamment dans l'Épître aux Corinthiens. Le but d'1 Corinthiens 13, c'est de contempler la montagne et de se dire que ça, c'est inatteignable. Mais pas de se décourager, de venir alors aux sources de l'amour. Parce que si aucun de nos prénoms pourrait être associé à ce « Nicolas pardonne tout, croit tout, supporte tout », il y a un nom qui, lui, peut se mettre ici. C'est Jésus. Jésus correspond parfaitement à ce qui nous est dit là. L'amour, selon 1 Corinthiens 13, c'est le portrait robot de notre Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je plaque, moi, ce que ça veut dire pardonner tout, supporter tout, croire tout. Il faut que je regarde comment Jésus fait cela. Parce que lui, chez lui, c'est son caractère profond. Et c'est ce que je suis appelé à imiter. D'ailleurs, l'amour de Christ pour nous ne se fonde pas sur le fait qu'on soit agréable ou non. C'est ce qu'on a constaté tout à l'heure, de là où vous voulez nous emmener à Corinthiens 13. L'amour de Christ ne se résume pas non plus à un simple sentiment. Il est néanmoins chargé de tendresse et d'affection pour chacun d'entre nous. L'amour de Christ, ça n'est pas uniquement un exemple d'abnégation et d'altruisme. Il n'est pas animé par une espèce d'autodiscipline en se disant « il faut bien que je le fasse, c'est pour le bien des autres ». Vous voulez grandir dans l'amour selon 1 Corinthiens 13 ? Mettez-vous au service de Jésus-Christ. Vous n'aurez pas le choix alors. Pour accomplir votre mission, vous serez amené à puiser aux sources même de cet amour dont il est question. Vous serez amené à laisser Christ vivre en vous. Alors Paul va ajouter, dans la fin du passage, et je vais le traiter que brièvement, une dernière raison qui devrait nous amener à nous focaliser sur l'amour. Cette dernière raison, c'est sa longévité. Il nous propose deux images pour tenter de nous aider à saisir cela. Deux images qui nous aident à saisir le caractère inachevé de ce que nous vivons sur cette terre. La première image, elle met en contraste la connaissance d'un adulte et celle d'un enfant. Il y a comme un changement de paradigme, comme un changement de contexte total. La deuxième image, c'est celle d'un miroir qui renvoie une image floue de la réalité. Alors on peut être étonné, hein, parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de me voir vraiment tel que je suis. C'est parce qu'à l'époque, les miroirs étaient faits en métal, et en métal poli. Et forcément, l'image qui rendait n'est pas aussi nette que celle de nos miroirs actuels. Et d'ailleurs, Corinthe était connue pour ses ateliers de métal poli. Ce que Paul veut nous faire saisir, c'est que ce que nous connaissons de Dieu dans notre réalité actuelle n'est que partiel. Alors, on est appelé à exercer nos dons, comme ce matin, à travers la louange, à travers la prophétie, l'explication de la parole, pour essayer de mieux comprendre qui est Dieu. Mais nous vivons le temps où la perspective est limitée. En quelque sorte, ne nous emballons pas trop, ne nous croyons pas arrivés, ne faisons pas une si grande affaire alors que nous sommes dans le temps de la connaissance partielle. Nous nous réjouissons, nous nous vantons, nous nous préoccupons, nous nous décourageons de situations qui un jour disparaîtront, nous dit Paul. Paul ne veut pas que nous attachions trop d'importance, trop d'énergie, trop de préoccupations dans ces choses appelées à disparaître. Il veut qu'on se focalise sur ce qui va durer éternellement. La foi, l'espérance et donc l'amour. Et il nous dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi ? Parce que la seule chose dont on est sûr, c'est que dans 1 000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, ce que Dieu et son peuple continueront de faire, c'est de s'aimer. Alors, attachons-nous à rechercher l'amour. Alors, j'aimerais nous poser maintenant quelques questions pour faire suite à ce texte. Nous avons donc vu ce matin deux notions. La première, vous vous rappelez, impossible de servir sans aimer. Impossible de servir Christ sans amour. Et peut-être que ce matin, c'était cette première partie qui était pour vous. Vous vous sentez bien impliqué dans un service de l'Église, peut-être même un peu borderline en termes d'investissement. Vous aimeriez parfois sortir un peu la tête de l'eau. La question qui se pose à vous, c'est est-ce bien la bonne motivation qui conduit votre service ? Est-ce qu'il vous faudrait prendre un temps cette semaine ? Pas pour vous dire d'arrêter, mais pour vous poser la question, qu'est-ce qui conduit votre service ? Un moment de prière, un moment de culte personnel pour demander à Dieu de renouveler cette vision du service. Quand je chante, quand j'enseigne, quand je m'occupe des enfants, même quand je fais le ménage ou la technique, est-ce que j'ai bien en vision la cathédrale de Dieu ? Le projet bien plus grand qui me dépasse et qui, lui, sème dans l'éternité. Peut-être c'est en passant du temps avec un frère ou une sœur de l'Église que vous arriverez à reconsidérer les motivations pour votre service. Peut-être qu'il n'y a rien de plus important à faire cette semaine. Parce que si ce que nous avons dit ce matin est vrai, si ce que vous le faites sans amour, ça ne sert à rien. Mais peut-être que c'était plutôt la deuxième partie qui vous concernait plutôt ce matin. Vous savez, l'idée que, en fait, on ne peut pas grandir dans l'amour sans servir Christ. Vous venez peut-être d'arriver dans cette église et vous ne savez pas encore trop comment tout ça fonctionne. Les anciens, moi-même, le pasteur, on est disponible pour vous rencontrer et puis pour prendre du temps un peu pour intégrer la manière dont on peut servir les frères et sœurs ici à Farmoutier. Ou alors ça fait quelques années que vous vous êtes mis un peu en retrait du service de l'Église. Bon, il y a plein de raisons pour cela. Besoin d'un break, besoin d'un peu de recul parce qu'on a été blessé par une situation difficile et on doit le reconnaître, ça arrive dans nos églises. Mais il me semble que la parole de Dieu nous encourage ce matin. Ne restons pas trop longtemps de côté. Parce qu'en faisant cela, nous nous privons du moyen privilégié de Dieu pour nous faire grandir dans l'amour, selon 1 Corinthiens 13. Dieu a prévu le service dans l'Église pour que nous soyons amenés à imiter toujours plus profondément l'amour de Christ. Il y a deux conclusions ce matin. Ça, c'était la première. Deuxième conclusion, plus globale sur l'ensemble de notre série sur la vision. Vous avez bien intégré maintenant les quatre mots, foi affermie, foi enthousiaste, foi rayonnante, foi bienveillante. Et le but de cette vision, c'était un peu de préciser à chaque fois ce que nous entendions par là, tous ensemble, et de regarder comment la parole de Dieu éclairait cela. Et bien sûr, on n'est pas arrivé, ce n'est pas parce qu'on a fait cette série que maintenant tout est bon, et vous l'avez compris, ce sont, j'ai envie de dire, rien de plus ressemblant à la parole de Dieu, il n'y a pas particulièrement d'innovation, et on reviendra régulièrement sur ces quatre principes. Mais dans chacun de ces domaines, notre texte de ce matin nous rappelle la voie par excellence à rechercher. En fait, ça ne sert à rien de vouloir grandir dans la connaissance de la Bible, des passages, de les apprendre par cœur ou de savoir les interpréter dans toute leur longueur, si cela n'apporte pas une transformation dans notre vie, à nous faire grandir dans l'amour. De même, notre désir de rayonner, ça ne ressemble qu'à une cymbale vide qui résonne, si ce n'est pas poussé par l'amour de ceux qui se perdent. Notre enthousiasme ne sera qu'agitation s'il ne nous conduit pas dans un plus grand amour pour notre Seigneur, pour notre prochain. Et on a vu ce matin que même la bienveillance, sans amour, ça ne sert à rien. Alors, entendons l'exhortation de ce matin et recherchons l'amour. Nous avons urgemment besoin que ces paroles pénètrent au plus profond de nos cœurs. Et pour ce faire, je vous invite à les réentendre encore une fois, mais dans une version revisitée cette fois-ci. Écoutons cette lecture comme un temps de méditation et de prière.
L'amour. L'amour est patient. Qui sait l'attendre ne perd pas son temps s'il l'attend, ni son latin quand il l'attend. L'amour ne juge pas sans savoir. D'ailleurs, le mal qu'il sait, il le tait. Il croit que ce que l'on ne voit pas est mieux que ce que l'on voit. Le pire n'est jamais certain, c'est sûr. Il rassure. Avec droiture, il ne soupçonne pas le mal. Les paroles maladroites, il ne les croit pas moches. Si c'est ambigu, il ne les rend pas graves. L'amour prend le bon côté. Il fait confiance quand la méfiance est de mise. L'amour refuse ce qui blesse. Il laisse tomber les jalousies, les calomnies, les vilainies, infamies, vacheries, ignominie. Pas un signe nautique dans la critique qui est facile. Il ne dit pas tout, mais tout ce qu'il dit est juste. L'amour se réjouit de la vérité, l'injustice l'attriste. L'amour suit la piste de la bonté. Thé ou café, il sait s'arrêter pour t'écouter. Café ou thé, pour lui ce qui compte, c'est le moment de qualité. Aux autres, il ouvre son cœur, sait être un bâtisseur. Il se réjouit du bonheur de ses frères et sœurs. L'amour encourage, il laisse sa messe large, clin d'œil complice pour plein Dieu propice au moment où l'on en a besoin. Mais il ne donne pour rien. L'amour ne cherche pas à se faire valoir, n'attend pas la gloire. L'orgueil n'est pas son écueil. Il n'est pas prétentieux, dédaigneux, présomptueux, orgueilleux, sentencieux, impérieux. On ne sait pas l'hériter. On aimerait l'imiter. Personne n'a vu sa susceptibilité. L'amour est indulgent quand on aurait envie d'accuser. Les torts des autres et les torts et les remords, il endure, supporte, pardonne. Même si c'est dur, il ne prend pas note des fautes des autres. L'amour souffre, oublie et change la donne. Il libère par sa grâce qui passe et repasse. Pas de faux plis, tout est net. Il ne se prend pas la tête, mais s'entête là où c'est normal d'abandonner, car il espère tout, persévère en tout, surtout juste mais pas sévère. En toutes circonstances, il fait confiance. Jusqu'au bout, l'amour aura le dernier mot sur tout. On rage, on grogne, on s'interroge. Comment aimer de la sorte serait possible? Comment tu accèdes à l'inaccessible? À celui qui se logue, Dieu donne, il l'a promis. L'amour n'est pas fortissime au roulement de tambour, mais pillable et chaque jour. Il n'est pas toujours là où on le pense. Il est discret, n'entre pas en transe, il n'est pas au milieu de la danse. Dans le secret, il se réveille. De petites choses, il les rend belles. Qui a vu ses limites? Qui peut dire stop? C'est là qu'il s'arrête. Une chose est certaine, c'est plutôt bien. L'amour n'a pas de fin.